Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous. Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission d'AC. AC, c'est Agir ensemble contre le chômage. Pour cette émission, je reçois ce soir un invité exceptionnel, François Ruffin. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur de La guerre des classes, publié aux éditions Fayard, mais également reporter pour l'émission France Inter, Là-bas si j'y suis. Vous êtes aussi collaborateur au Monde diplomatique. Alors, pour évoquer cet ouvrage, La guerre des classes, je serai en compagnie de Ludovic.
Bonsoir.
Ainsi que Gilles.
Bonsoir.
Et Thierry.
Bonsoir.
Nous avons bien sûr, bien évidemment, Claude à la technique, sans qui rien ne serait possible, et nous le remercions. Et il y a bien sûr moi-même. Mais avant d'aborder cet ouvrage, les annonces, et notamment, Thierry, la manifestation des chômeurs et des précaires qui se déroulera demain. Pourrais-tu nous donner des précisions? Puisque oui, c'est la manifestation annuelle des chômeurs et précaires.
Manifestation annuelle tous les ans, premier dimanche de décembre, le premier samedi de décembre, excusez-moi, c'est-à-dire demain 14h à Stalingrad, il y a la manif traditionnelle des chômeurs contre les lois du chômage. Et en plus, même si vous n'êtes pas en association de lutte, mais que vous êtes en précarité, que vous sentez que le gouvernement vous embête vraiment, ben venez vous péter avec nous, venez gueuler dans la rue, venez manifester dès 14h à Stalingrad et on se rendra jusqu'à Place Clichy.
Donc dès demain, 14h, Stalingrad, manifestation à l'appel, je pense bien sûr des associations de chômeurs et précaires.
La PES, MNCP, AC.
Très bien, ben on s'y rendra tous et toutes. C'est, je pense, un acte de conscience un peu politique et puis de militant par ces temps très difficiles. Je te remercie. Alors, François Ruffin, je vous remercie d'être venu. Voilà, excusez-moi.
C'est moi qui vous
Donc, je rappelle que nous sommes toujours dans l'émission de mode d'emploi 106.3. Vous pouvez réagir à cette émission en nous appelant au 01 40 05 06 10. 01 40 05 06 10. Et vous réécouterez bien sûr cette émission sur le site de mode d'emploi, modepluriel-d-emploi.net. Alors, vous avez écrit donc cet ouvrage, La guerre des classes, paru aux éditions Fayard. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a amené à écrire une possible guerre des classes?
Déjà, moi, je suis reporter, comme vous l'avez dit, pour l'émission Là-bas si j'y suis. Je fais aussi à Amiens, par exemple, un journal qui s'appelle Fakir. Et pour vous donner un exemple, il y a un an, il y a eu une décision de restructuration de Goodyear, dont vous avez peut-être entendu parler, Goodyear sur le site d'Amiens, où il y a eu la décision de supprimer 402 emplois, plus 600 autres emplois à venir. Et au moment où il y a eu cette décision qui est prise, j'ai regardé sur Internet et je suis tombé sur un communiqué émanant de la direction de Goodyear, donc aux États-Unis, et qui se félicitait d'excellents bénéfices. Et dans ce communiqué, il y avait trois fois le mot bénéfice et trois fois le mot restructuration. On voyait bien à qui s'adressaient les bénéfices, à qui le mot bénéfice s'adressait, à qui s'adressait le mot restructuration. C'est comme s'il y avait, on départageait les vainqueurs et les vaincus. Donc, il y avait pour moi l'évidence depuis longtemps de quelque chose qui était en train de se passer, d'une expression que j'osais pas employer, mais qui était pour moi sur le bout de la langue, mais que j'osais quand même pas employer. Parce que si j'avais employé cette expression-là, je serais passé pour un stalinien, pour un archaïque, pour un ringard, vous voyez un peu ce genre, pour un populiste. Et donc finalement, je suis tombé sur Internet, sur cette phrase, la guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, celle des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter. Et la personne qui constatait que la guerre des classes existait, et qu'il était en train, lui, comme riche, de la remporter, c'était Warren Buffett. Warren Buffett étant la première fortune mondiale, étant devenu depuis la première fortune mondiale. Mais disons que le fait que la première fortune mondiale énonce que la guerre des, qui n'est pas un stalinien, qui n'est pas un trotskiste, qui n'est pas un maoïste, énonce que la guerre des classes existe, bah, ça faisait que bah, moi, ça me déculpabilisait, ça me décomplexait, et que je me disais qu'effectivement, Warren Buffett avait bien raison, et qu'il y avait une guerre des classes qui était à l'œuvre, que c'était les riches qui l'amenaient, et que c'était les riches qui étaient en train de les gagner, quoi.
Alors, j'ai envie de vous poser une autre question. Elle a comment, la guerre des classes, il y a toujours eu des riches et des pauvres dans toute société. Mais quand vous dites guerre des classes, c'est que vous sous-entendez qu'il y a eu un moment, une déclaration de guerre.
Ben, justement, non. Justement, tout le principe de la guerre des classes d'aujourd'hui, alors là, on en a un contre-exemple avec Warren Buffett, qui, lui, la déclare qu'elle existe, mais c'est qu'elle se mène tout en étant silencieuse. Elle se mène par ce qu'on nous dit que c'est une restructuration nécessaire, que ce sont des réformes inéluctables. C'est-à-dire, il y a tout un vocabulaire qui permet d'euphémiser une violence sociale. Il y a une violence sociale qui est en cours et il y a tout un vocabulaire utilisé par des ministres, par des patrons qui permet d'euphémiser cette violence sociale. Mais effectivement, la lutte des classes, hein, c'est le début du manifeste du Parti communiste, dont je suis pas un spécialiste, mais le début du manifeste du Parti communiste, c'est une histoire éternelle entre esclaves et citoyens de grecs. Enfin, vous voyez, que ça se prolonge avec les seigneurs et les vassaux et que ça, on en arrive aux prolétaires, aux bourgeois. Bon, et effectivement, je pense qu'on est dans la continuité de cette histoire. L'originalité, c'est que aujourd'hui, cette histoire, c'est comme si elle était devenue interdite. Il était devenu interdit d'énoncer la continuité de cette histoire, puisque la gauche elle-même, qui était supposée défendre les opprimés, a renoncé à énoncer cette lutte des classes, quoi.
Oui, Gilles.
Oui, mais justement, tu parlais de lutte des classes. Lutte des classes, c'était dans les années 70. Ensuite, on a, en sociologie, par exemple, on parlait de conflit classe dans les années 90. Maintenant, tu parles de guerre de classe. Mais est-ce que tu pourrais pas dire éventuellement que, comme on a vu qu'avec Sarkozy, toute la gauche française s'est complètement atomisée et qu'il ne réagit absolument plus à tout ce qui fait loi antisociale liberticide, est-ce qu'on ne peut pas parler de génocide de classe plutôt maintenant, éventuellement?
Bon, je pense que ça serait même, enfin, je pense que ça serait dommage d'aller dans l'exagération. Je pense que parler de génocide de classe, je veux dire, il est clair qu'il n'y a pas un massacre en place publique des ouvriers, des précaires. Moi, je cherche à avoir des mots justes sur ce qui est en train de se produire. Et quand j'emploie l'expression la guerre des classes, c'est pas moi, je le répète, qui le dit, c'est Warren Buffett. Donc, je pense que j'éviterais moi d'aller dans l'exagération. Il me semble que guerre des classes déjà largement suffisant. Et quand tu disais la gauche a renoncé là face à Sarkozy, mais moi je situerais pas ça. Je pense pas qu'il y a eu un changement à gauche ces deux dernières années. Ce qui s'est produit se produit depuis 1983. Tu disais dans toutes les années 70, François Mitterrand arrive au pouvoir en disant la lutte des classes existe, il y a un conflit entre une masse d'opprimés et quelques privilégiés, il faut mettre à bas les maîtres de l'argent, c'est le discours de François Mitterrand dans toutes les années 70. Une fois qu'il arrive au pouvoir, ou plutôt deux années après, en 1983, en direct sur TF1, dans une émission qui s'appelle L'Enjeu, il déclare la trêve des classes, il déclare qu'il faut signer la trêve des classes et qu'on en viendra bientôt à la paix des classes. Mais je veux dire, on pourrait ne rien avoir contre. Pour moi, l'objectif, c'est pas qu'il y ait en permanence des baïonnettes dans les rues de Paris et que les prolétaires cherchent à prendre d'assaut les demeures des bourgeois. Hein. C'est pas mon objectif permanent. Mais il se trouve que cette année où François Mitterrand déclare la paix des classes, c'est l'année où le chômage va augmenter de 25% en France. C'est l'année où on va mettre en place les premiers travaux d'utilité collective, donc les premiers contrats précaires.
Ce qu'on appelle les TUC.
Les TUC. C'est l'année où, l'année d'après plutôt, il va y avoir les premiers Restos du Cœur qui vont ouvrir. Donc on voit bien là qu'au moment où François Mitterrand signe dans les mots et vient dire à toute la gauche française « cessez de mener la lutte des classes, il faut réhabiliter le profit » et puis tout ça, c'est le moment où en vérité la guerre des classes est menée avec le plus de rage. Mais c'est pas une... Je le répète, moi je dis toujours... Quand on a pour soi la force des choses, on n'a pas besoin de la force des mots. Les riches ont pour eux la force des choses. Ils ont les médias, ils ont les ministères, ils ont le pouvoir à la direction, ils ont la direction des entreprises. Donc ça veut dire qu'ils peuvent mettre en place un certain nombre de mesures brutales, mais faire tout ça, mais avoir pour faire tout ça que des mots très doux. Vous voyez ? Ils ont pour eux, ils ont avec eux la vaseline. Donc eux, ils n'ont pas besoin de déclarer la guerre des classes.
D'accord. Mais ce que je voulais dire, c'était que dans le mot guerre, parce que là, on peut parler de sémantique éventuellement, dans le mot guerre, il y a quand même le principe de deux armées éventuellement qui se combattent, hein, avec des armes plus ou moins égales, avec une organisation plus ou moins faite. Et là, on voit bien que c'est pas le cas, puisque effectivement, les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres, tu viens de le dire tout à l'heure. Et que les pauvres, eux, crèvent dans la rue, sans toit, sans fric, sans rien, quoi.
D'accord. J'exagérerai pas. Ben, tous les pauvres ne crèvent pas dans la rue, sans toit, sans fric, sans rien. Je veux dire, bon. Mais là, effectivement, je le dis dans mon livre, c'est une guerre des classes à sens unique. C'est-à-dire qu'on a des riches qui sont organisés à travers des organisations fortes comme le MEDEF, à travers des partis fortes comme l'Union pour un mouvement populaire, qui sont organisés aussi parce que ils se rencontrent la CODIS, ils se rencontrent à Bruxelles, ils se rencontrent à Bâle entre banquiers. Donc il y a une vraie organisation des puissants de ce monde, sans que ça soit un complot, mais il y a quand même une convergence d'intérêts. Et en face, eh ben il y a effectivement des pauvres ou des travailleurs qui eux sont beaucoup moins organisés, avec des organisations beaucoup moins fortes qu'elles ne l'étaient dans les années 70. Quoi.
Thierry, tu voulais réagir ?
Faut voir, vous dites guerre des classes, moi j'appellerais plutôt une guerre sociale. Une guerre sociale, la guerre, parce qu'on est tous en train de se tirer à couteau tiré par des grandes phrases sociales et des grandes lois. Et alors il y a la loi des riches et la loi des pauvres. Comment les riches réagissent sur les lois envers les pauvres pour réorganiser le pays.
C'est-à-dire, votre question c'est sur comment les riches regardent les pauvres, comment les riches prennent les décisions, c'est ça? Bon, le discours constant de la droite et des riches, c'est de dire qu'il n'y a pas de classe. Que les classes, ça n'existe pas, qu'on est tous amis les uns des autres, qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'était le discours, par exemple, je peux peut-être lire une partie du discours de Christine Lagarde à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous en avez gardé mémoire, mais le discours de Christine Lagarde au moment où elle vient présenter le paquet fiscal, donc peu après l'élection de Nicolas Sarkozy, c'est ça. La lutte des classes est une idée essentielle pour les manuels d'histoire. Vous voyez, c'est bon au passé, c'est bon pour les manuels d'histoire, mais elle n'est plus d'aucune utilité pour comprendre notre société. Et pourquoi ? Elle l'explique, hein. Cessons d'opposer les riches et les pauvres, comme si la société était irrémédiablement divisée en deux clans. Le travail met l'ensemble des professions sur un pied d'égalité. Le patron comme le petit employé savent ce que cela signifie, une journée de boulot. Vous voyez ? Donc c'est constamment dans le discours de la droite, et bon, je cite... Je remonte à Adolphe Thiers qui peu après la commune vient dire que bon il faut pas qu'il y ait de discorde dans le pays, que ça serait dommage qu'il y ait une lutte des classes qui se ranime, mais jusque Valéry Giscard d'Estaing, jusque Pompidou, jusque Christine Lagarde, jusque Nicolas Sarkozy, jusque Gilles de Robien, le discours constant de la droite c'est de dire il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, nous sommes tous dans le même bateau.
Oui, Ludovic.
Et il y avait peut-être une autre question aussi dans la question de Thierry, c'est finalement la guerre des classes, très peu de gens ont conscience d'être en guerre des classes et il se traduit même souvent le phénomène inverse, c'est que les pauvres ont plutôt tendance à cracher sur les pauvres, ou comme pour tout dire, la pauvreté a envié la misère, et on a bien vu avec la campagne de Sarkozy qu'on a eu une campagne anti-parasitaire, sous-entendu les rémistes profitent très largement de la société, et je suis pas sûr de me tromper en disant qu'une très très large partie des couches populaires pense tout à fait la même chose. Alors pourquoi finalement cette dépolitisation ou ce manque de conscience de classe, pour reprendre une terminologie marxiste?
Alors je vais partir d'un exemple. Un exemple qui se passe à Abbeville, donc moi j'habite Amiens, hein, je l'ai dit, à une trentaine de kilomètres d'Amiens. Je vais rencontrer dans un quartier populaire qui s'appelle le quartier de l'Espérance. Déjà, souvent, quand un quartier s'appelle quartier de l'Espérance, c'est pas bon signe pour ce qui s'y produit. Mais je rencontre une personne qui s'appelle Romain et qui me dit « Le boulot, quand il y en a, il est toujours donné aux autres, alors que nous, on est prêts à travailler. » Donc lui, il a pas de chance, il a 3 enfants, il arrive à peine à avoir de temps en temps un contrat emploi solidarité. Il travaille que le samedi à ce moment-là où il va faire des ménages dans une industrie qui est vide le samedi, donc on lui demande de faire le ménage là-bas, donc il travaille un jour par semaine. Et puis il précise ses propos plus loin, il dit: on est en France, on est tous égaux, qu'on soit noir, qu'on soit blanc. Pourquoi qu'il y en a qui auraient plus de droits que nous? C'est toujours les mêmes qu'on prend, on devrait nous appeler aussi. On est à la NPE comme tout le monde, on est au chômage comme tout le monde. Là, ce qui signifie par là, c'est que s'il n'a pas de travail, c'est de la faute aux Noirs et aux Arabes qui prennent son travail sur les chantiers qui se déroulent, du bâtiment qui se déroule en bas de chez lui. Et ça, j'en discute avec un professeur de sciences politiques. Vous voyez, moi, je fais des recherches à la fois du côté des gens qui vivent dans des difficultés et du côté des chercheurs qui peuvent un peu m'expliquer ça. Et je lui dis, comment ça se fait qu'ils pensent comme ça? Ce professeur de sciences politiques qui s'appelle Patrick Lehing me dit, écoute, c'est très simple. Tout le monde fonctionne avec des couples d'opposition dans sa tête. Quand ça va mal pour soi, on cherche à comprendre pourquoi ça va mal pour ça. On cherche à visualiser une cause. Auparavant, jusqu'à la fin des années 70, jusqu'au début des années 80, on a dit aux pauvres, si vous êtes pauvres, c'est la faute des riches. Il y a un partage de la valeur ajoutée, il faut aller récupérer de l'argent dans la poche des actionnaires. C'est ce qu'on a dit aux gens, aux travailleurs. Et puis au début des années 80, la gauche qui tenait ce discours a complètement cessé de tenir ce discours. Elle a dit au contraire, non, il faut cesser de stigmatiser les riches, il faut qu'on vive tous en paix, en s'aimant. Et donc là, il me dit ça, il n'y a pas 40 façons pour les gens de classer en juste, injuste. Soit c'est le riche contre le pauvre, les petits contre les gros, comme on dit. Soit c'est le dedans contre le dehors, les Français contre les étrangers, les jeunes contre les vieux. Eh bien, à partir du moment où on a fait tomber le conflit central, le conflit essentiel, qui était le conflit capital-travail, à partir du moment où on l'a fait tomber dans la tête des gens, eh bien, à ce moment-là, ce sont des conflits secondaires et ce sont les conflits sur lesquels a joué Sarkozy. Sarkozy, il est allé voir les gens qui travaillent dans le public, dans le privé, il leur a dit « Regardez ces salauds de fonctionnaires ». Il est allé voir les fonctionnaires, il a dit « Regardez les régimes spéciaux ». Il est allé voir les smicards, il a dit « Regardez ces RMistes ». Il est allé voir les RMistes, il a dit « Regardez les sans-papiers ». Ça en est devenu ridicule parce que il a même, au ministère de l'Intérieur, il a invité des beurs à venir au ministère de l'Intérieur et il a dit aux beurs, aux jeunes beurs, aux jeunes arabes, c'est sur un téléphone portable, c'est enregistré sur un téléphone portable, ça se trouve sur Dailymotion, il a dit aux jeunes arabes, bon, vous vous intégrez, ça va encore, mais regardez les noirs, regardez les turcs, avec eux, vraiment, on peut rien faire. Donc, vous voyez, ce travail de segmentation, mais je pense que tout ça, c'est possible, et c'est vrai, c'est comme ça que les gens y regardent. Mais ils regardent comme ça, parce que on a fait tomber ce qui avait été le conflit politique central, le conflit capital-travail.
Alors, je vous interromps, parce qu'on a un auditeur en ligne. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Salut Joël. Hein.
Salut Joël.
Ouais, c'est assez intéressant ce qui est dit. Bon, c'est toujours un grand classique dans le système capitaliste, c'est d'opposer les gens de la même classe entre eux. Hein. Je veux dire, effectivement, on est sûr de entre guillemets de les neutraliser. Et moi, j'ai pensé aussi parce que tout à l'heure, j'ai jeté rapidement un coup d'œil à la télé et on avait le couple Attali et Éric Heyer, donc deux économistes. Et je pensais aux petits soldats de l'information ou aux vassaux de l'information, comme on voudra, qui relaient effectivement. Le système capitaliste quand même, parce que quand je voyais effectivement, ouais, on demandait à ces deux sommités de faire effectivement de donner leur pronostic sur l'avenir, alors que c'est surtout monsieur Attali qui à un moment effectivement ne cessait de dire ce qu'il fallait faire, où il fallait aller pour que le système continue, puis aujourd'hui retourne sa veste.
C'est quoi ton interrogation, Joël?
Parce que mon interrogation, justement, c'est le comment c'est aussi impliqué les journalistes et les médias, gérer les médias
en général. Ouais,
je crois que là il y a vraiment aussi une question à reposer. Et bon, au niveau de nous, on la pose comme ça, mais je crois que c'est vrai qu'à un moment il va falloir une reprise en main des médias.
Joël, on est obligé un petit peu de t'interrompre parce qu'on aura d'autres auditeurs là au cours de l'émission, mais je vais demander justement à François Ruffin, si tu le permets, hein, de te répondre par rapport à ce problème médiatique et d'indépendance.
Et d'ailleurs, la question qui suit, c'est comment les médias voient les riches. Qui est peut-être un peu vaste.
Non, mais Bon, moi, il se trouve que mon premier bouquin s'appelait Les petits soldats du journalisme et était consacré notamment au traitement de l'actualité sociale dans les médias. Donc, il est évident qu'il y a des biais qui sont énormes, qui sont d'abord l'appartenance sociale des journalistes, qui appartiennent plutôt aux classes moyennes supérieures, c'est qui sont les propriétaires des médias, c'est ramener de la publicité, c'est un certain nombre de choses comme ça. Maintenant, pourquoi mon bouquin ne tourne pas essentiellement autour des médias ? Parce que je veux dire, ça aurait été le biais le plus évident de dire c'est eux qui annulent la guerre des classes et tout ça. Parce que je fais cette analyse-là au lendemain de la victoire de Nicolas Sarkozy. Un moment où, enfin, c'est un triomphe de la guerre des classes, en un sens, quoi, où il est en train d'annoncer un certain nombre de mesures fiscales en faveur des riches, où c'est Christine Lagarde, une avocate d'affaires, qui prend le ministère de l'économie, où on voit Rachida Dati poser en une de point de vue, où on nous dit star et millionnaire, la nouvelle alliance, et puis tout ça. À ce moment-là, je me fais la réflexion que la victoire de Nicolas Sarkozy n'est pas pour moi essentiellement le fait des médias. Je conçois qu'on les mette en cause, je pense qu'ils ont favorisé l'élection de Nicolas Sarkozy, mais je pense que le problème essentiel est un problème politique. C'est-à-dire, c'est un problème de parti. C'est que si on n'a rien en face de quelque chose, c'est toujours quelque chose qui gagne. Et que là, on a parlé de Jacques Attali, là, par exemple. C'est quand même incroyable, ce type, qui est le conseiller de Ségolène Royal, et qui est ensuite le conseiller de Nicolas Sarkozy. Ça veut dire qu'au fond, sur le terrain économique, sur le terrain de la question sociale, qu'est-ce qui a divisé pendant la dernière campagne présidentielle la droite et la gauche?
Est-ce que c'est pas révélateur de la non-mixité des élites?
Oui, sans doute, mais c'est révélateur de plein de choses. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment ça se fait que mon camp, parce que je suis politisé, comment ça se fait que mon camp est finalement en accord quasiment avec le camp adverse sur le terrain de la question sociale et sur le terrain de la question économique. Là, pour moi, il y a une mise. Le cœur de mon analyse, c'est une mise en cause de la gauche. Comment ça se fait que quand on voit quelqu'un de gauche qui passe à la télévision, sur le terrain des questions sociales et des questions économiques, on n'a pas forcément un sentiment de divergence absolue, quoi.
Très bien. Joël, je te remercie de nous avoir contacté.
Merci beaucoup et puis bonne émission et puis voilà, restez à l'écoute.
Bonne soirée à vous.
Bonne soirée. Merci, Joël. On se retrouve tout de suite avec une petite pause musicale. À bientôt. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'AC Agir ensemble contre le chômage. Je suis rebonsoir à vous tous. Je suis en compagnie de François Ruffin, auteur de La guerre des classes aux éditions Fayard et de toute l'équipe. Alors, on va reprendre cette discussion sur la définition de guerre des classes parce qu'il y a un chiffre qui nous chiffonne un peu tous et qu'on a entendu dans certains rapports, notamment le rapport La Route au Room, et qu'on dans la mémoire collective grâce à la magie de l'anonymat qu'on a oublié, c'est la taxe de la valeur ajoutée. C'est-à-dire la relation entre le bénéfice qu'il y a entre le capital et le travail. Et on sort un chiffre comme ça, on ne comprend pas ce que c'est 9,3% du PIB. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les choses?
C'est-à-dire que, pour moi, il y a un bras de fer entre le capital et le travail. C'est un bras de fer, on l'a dit, hein, qui est là depuis l'Antiquité. Et il y a eu... le bras de fer a, ces 25 dernières années, largement tourné au faveur du capital et au détriment du travail. Et ça, c'est pas être gauchiste que de dire ça. C'est une vérification statistique. Je peux citer, par exemple, je vais citer cette phrase. La part des profits est inhabituellement élevée à présent et la part des salaires inhabituellement basse. En fait, l'amplitude de cette évolution et l'éventail des pays concernés n'a pas de précédent dans les 45 dernières années. Alors, qui vient dire que jamais le revenu du capital n'a été aussi important et les revenus du travail aussi faibles? Eh bien, c'est pas ATTAC, c'est pas la CGT, là, c'est la BRI. La BRI, c'est la Banque des Règlements Internationaux. La Banque des Règlements Internationaux, c'est un cénacle de banquiers. Donc, vous voyez, c'est sérieux. Ils parlent en anglais, donc c'est doublement sérieux. Ils se réunissent à Bâle, en Suisse, donc c'est triplement sérieux. Et c'est eux qui font ce constat qu'il y a eu un glissement de la part de valeur ajoutée en faveur du capital. Donc je pourrais citer Alan Greenspan, je pourrais citer des tas d'économistes libéraux. Non, laissez-moi, j'ai besoin de 5 minutes pour expliquer ça. Le chiffre qui revient effectivement en France, c'est 9,3%. Ça veut dire que si on prend la répartition capital-travail en 1983 par rapport à aujourd'hui, en 1983, les salariés avaient 9,3% en plus de ce qui est produit dans le pays. 9,3%, c'est énorme, parce que ce qui est produit dans le pays aujourd'hui, c'est 1 800 milliards d'euros. Donc, ça veut dire que si on fait 9,3% de ça, on a entre 150 et 170 milliards d'euros supplémentaires pour les salariés et 150 à 170 milliards d'euros en moins pour les actionnaires. 150 milliards, le déficit de la Sécu, c'est 11 milliards d'euros. Donc, on voit bien que ça fait à peu près 15 fois le déficit de la Sécu. Le déficit des retraites, c'est 5 milliards d'euros. Donc, ça fait 30 fois le déficit des retraites. Donc là, on est sur des chiffres qui sont absolument considérables. Et ce chiffre-là, ce 9,3%, c'est 150 milliards. Ça résume toute l'évolution économique de ces 25 dernières années. Parce qu'on peut se demander comment a fait le capital pour gruger ça au travail. Ben, il y a 4 réponses possibles. Enfin, il y a 4 moyens différents. Le premier moyen, c'est par la suppression de postes. Suppression de postes dans le privé, donc c'est-à-dire licenciement chez Danone, chez Goodyear, chez Michelin et ainsi de suite. Pendant qu'on reverse des dividendes aux actionnaires. Mais licenciement, suppression de postes également dans le public. Des emplois de fonctionnaires, ce sont des salaires qui sont versés en moins, que ça soit des emplois de profs, de tout. D'accord ? Le deuxième moyen, c'est la stagnation des salaires. Et on a cette étude de l'INSEE qui dit que les salaires ont stagné en France depuis 25 ans. Moi, je prends souvent 1988 comme date clé. Les salaires ont stagné depuis 1988, en 20 ans. 1988, c'est l'année de lancement du CAC 40. À l'époque, le CAC 40 valait 1000 points. Aujourd'hui, malgré la crise, on doit être à 3400 points. C'est-à-dire que le CAC 40 a été multiplié par 3,4 quand pendant le même temps, les salaires, eux, étaient stagnés.
Oui, c'est juste pour dire qu'avant la crise, il était à 7000 points, donc il était multiplié par 7 voilà. Par rapport à sa création.
Mais je prends quand même, j'ai l'honnêteté de prendre son cours actuel, le cours actuel qui est de 3400, donc c'était multiplié par 3,4 pendant que les salaires stagnaient. Le troisième moyen qu'il y a eu, c'est ce que vous appelez ici la précarité, c'est-à-dire la flexibilité. Hein, et la flexibilité de diverses manières, soit le travail à temps partiel. Le travail à temps partiel est passé à tripler depuis 1980, c'est-à-dire est passé de 6% à 18%, pendant que le travail d'intérimaire, lui, passait de 17% à 31%, doublé quasiment. Et ça, c'est une manière d'adapter le travail au plus juste du besoin du capital. Quand le capital n'a besoin que de 20 heures par semaine, eh ben, on lui fout bien un temps partiel à 20 heures par semaine. Alors qu'auparavant, il aurait été obligé de se débrouiller avec un temps plein et puis de voir ce qu'il faisait à côté. Quand le capital a juste besoin d'un travail de 15 jours, on lui fournit un travailleur intérimaire qui ne travaillera que 15 jours et il n'a pas besoin de payer du supplément. Le quatrième moyen qui a été inventé pour, encore gruger un peu au travail et encore en donner un petit peu plus au capital, c'est qu'en fait, on a tellement pesé sur les salaires qu'on ne peut plus peser directement sur les salaires. Donc maintenant, on pèse sur ce qu'on appelle les à-côtés du salariat. Ce qu'on peut appeler les à-côtés du salariat. C'est quoi ? C'est la sécurité sociale. Donc, il y a des franchises médicales, on comprend même plus, il y a des déremboursements, on comprend même plus comment ça fonctionne. Ce sont les retraites. Il faut cotiser plus et connaissez plus et plus longtemps pour toucher moins, vous voyez, c'est la réforme de François Fillon et ainsi de suite, et c'est aussi, puisqu'on est dans une émission qui concerne le chômage, c'est aussi les allocations chômage, c'est-à-dire les allocations chômage qui sont moins longues, qui sont moins importantes, et tout ça, donc je récapitule, les quatre moyens par lesquels on a fait passer 150 à 70 milliards d'euros par an du travail vers le capital, un, suppression de postes, 2, stagnation des salaires, 3, flexibilité, 4, on rogne les à côté du salariat.
Mais vous êtes en train de nous dire 170 milliards d'euros, c'est une fortune. Vous êtes en train de nous dire qu'en France, en fait, on a les moyens de ne pas avoir de déficit et d'avoir de nouveaux droits sociaux.
Oui, tout à fait. La une du dernier plan B là, qui vient de sortir, c'est les caisses sont vides, les coffres sont pleins. Vous voyez, et ça, c'est quand même une remarque qui est assez judicieuse. Et Alors, de quelle manière on nous fait lanterner et on nous dit, vous n'avez pas le droit d'avoir de nouvelles conquêtes sociales? C'est, on nous dit, il faut la croissance. Vous voyez, on a été en permanence, ça fait, moi j'ai l'impression d'être né, là on parle de crise dernièrement, mais moi j'ai 33 ans, je suis né en 1975. J'ai l'impression d'être né et de qu'il y avait déjà le mot crise quand j'avais 6-7 ans. Que ce mot crise, il a pas arrêté et que ça soit Raffarin, que ça soit Bérégovois, que ça soit Balladur, que ça soit Villepin, en permanence on m'a parlé de la croissance, il fallait attendre la croissance. Et avec Sarkozy, c'est encore pareil, il faut attendre le point de croissance supplémentaire. Et là où je redis qu'il n'y a pas trop de différence entre le discours de la droite et le discours de la gauche, c'est que le discours de Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle que j'ai étudié en long, en large et en travers, c'était un discours qui était en train d'espérer la croissance. Or moi, j'ai fait une petite analyse qui ne vaut pas pour cette année, puisque effectivement, cette année, on va pas avoir 2% de croissance. Mais sur les 25 dernières années, où on nous a dit la France a besoin d'un point de croissance supplémentaire, c'est la crise, ainsi de suite, la croissance moyenne a été de 2% dans ce pays. 2%, c'est la croissance moyenne pendant tout le XXe siècle, à l'exception des 30 Glorieuses. Or, pendant ce XXe siècle, on n'a pas attendu qui est la croissance en permanence pour venir réclamer des conquêtes sociales. Le Front populaire a offert les congés payés, a offert les 40 heures par semaine sans qu'il y ait sans qu'on attende le point de croissance supplémentaire, quoi. Donc c'est pour dire que il y a la possibilité aujourd'hui, non seulement, et aujourd'hui on nous dit non seulement vous aurez pas de conquêtes sociales, mais avec ces 2% de croissance seulement, vous êtes obligé de rogner sur les conquêtes sociales que vous avez. Donc je pense que ça, c'est une imposture. Et je suis pas seul à le dire. Je suis pas le seul à le dire. Il y a quelqu'un, il faut que je retrouve cette citation, mais qui est une citation quand même très intéressante, vous allez voir. Il y a quelqu'un qui a dit que effectivement attendre la croissance pour avoir des conquêtes sociales, c'était une imposture. Et je vais vous lire sa phrase, la phrase de cet intellectuel. Il est un mythe savamment entretenu par les économistes libéraux, selon lequel la croissance réduit l'inégalité. Cet argument permettant de reporter à plus tard toute revendication redistributive est une escroquerie intellectuelle sans fondement. Mais qui disait ça? C'était Jacques Attali. Mais c'était Jacques Attali maintenant qui veut absolument libérer la croissance, mais c'était le Jacques Attali d'une autre époque, c'était le Jacques Attali de 1973, mais je pense que le Jacques Attali de 1973 avait raison, qu'on ne doit pas attendre la croissance pour réclamer une meilleure répartition des richesses.
Ludovic ?
Oui, et puis dans le même style, on pourrait parler de la croissance américaine qui est à 4 ou 5%, et là où les écarts de richesse n'ont jamais été aussi importants, et l'insécurité sociale jamais aussi forte. Et pour rebondir sur cette question, qu'est-ce que vous répondez quand même aux gens on va dire aux chefs d'entreprise qui posent cette question, qui disent mais quand même accumuler du capital c'est bien parce que le capital crée la richesse via l'investissement.
Ben, alors surtout c'est bon, je veux bien répondre. Alors il y a une part d'investissement qui de toute façon est nécessaire. Il faut pas dire que moi je suis pas là pour dire zéro profit et on n'investit plus et l'outil industriel français devient complètement. Maintenant le problème essentiel qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en plus il y a tous ces bénéfices, mais l'investissement il est au point mort quasiment. C'est-à-dire que non seulement on dégage 150 à 70 milliards d'euros supplémentaires, mais ça sert pas à l'investissement en vérité. Si on regarde ce qui est fait des 100 milliards d'euros, puisque en 2007 il y a eu 100 milliards d'euros de bénéfices pour les entreprises du CAC 40, déjà il y en a eu 40 milliards qui ont été reversés en dividendes aux actionnaires. On appelait des méga-dividendes, des dividendes records. Donc ça, de toute façon, c'est déjà pas de l'investissement. Et ensuite, il y a encore une autre part qui a été utilisée en destruction de capital. C'est-à-dire qu'on l'utilise à détruire des actions. Donc là, c'est toujours pas de l'investissement. Donc, je suis pas là pour dire il faut pas de profit, il faut pas de bénéfices, parce qu'il faut de l'investissement, je suis bien d'accord. Mais simplement, là, c'est pas ça. Là, c'est qu'on fait passer des revenus du travail, des travailleurs, vers directement les actionnaires.
C'était juste pour compléter votre réponse. Vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est que la destruction de capital, hein, puisque effectivement, ça paraît un peu bizarre qu'on puisse détruire comme ça du capital, quoique.
Bon, alors, je vais donner un exemple. Airbus, dont on avait dit que c'était une entreprise en difficulté, vous savez, avec le plan Power 8 et ainsi de suite. Airbus avait décidé, bien avant ces difficultés, supposées, parce que moi, je considère qu'il n'y a aucune difficulté à Airbus, ça a été simplement une manière de masquer un gigantesque plan de délocalisation à la fois vers le Mexique, vers le Maghreb et vers la Chine. Mais avant la décision du plan Power 8, on lit les rapports de EADS, puisque je me farcis ce genre de littérature, et on découvre qu'ils ont décidé, je crois, d'investir 8,7 milliards d'euros en destruction de capital. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont utiliser ces 8,7 milliards d'euros pour racheter des actions et les détruire. Parce que le fait qu'il y ait moins d'actions sur le marché, c'est une manière de valoriser les actions qui existent. Donc on utilise l'argent des entreprises à racheter leurs propres actions pour les détruire.
C'est complètement aberrant parce que c'est au contraire à une logique de croissance économique et puis c'est tous les salariés qui reprennent le contre-coup.
Ben, c'est complètement aberrant parce que on peut estimer, moi je suis dans ce que vous aviez dit avant, je suis dans une logique et ça a été la logique. Je dis Airbus aurait jamais existé si l'État n'avait pas investi pendant 25 ans, n'avait pas investi pour faire des avions. Après on peut contester hein, le mode de croissance de l'avion. Moi je suis complètement hostile à un développement du transport aérien. Mais si l'État n'avait pas investi pendant 25 ans à fond perdu, même à cette époque-là, pour qu'il y ait des avions qui soient construits, des nouveaux avions avec des problèmes industriels importants, jamais jamais Airbus n'aurait existé. Et à partir du moment où EADS rachète aérospatial, à partir du moment où le gouvernement Jospin en fait cadeau au groupe Lagardère, en vérité, eh ben à ce moment-là, il y a une augmentation des dividendes. On cesse d'investir sur l'outil industriel et on détruit du capital.
Oui, Thierry.
Pourquoi je comprends pas qu'on arrive à détruire du capital alors que dans les années 70 où il y avait des projets de modélisation de certaines usines, de certains produits de fabrication, le gouvernement a dit non, vous ne mettrez pas en route et les projets ont été vendus à l'étranger. Ça, je trouve ça aberrant de voir des richesses françaises partir aux mains des étrangers.
Oui, mais ça c'est par exemple, moi je vais vous donner un exemple là tout dernièrement, il y a une entreprise qui s'appelle Cosra à Amiens qui fabriquait du velours, c'était la plus vieille entreprise de fabricant de velours et c'était vraiment des très grands professionnels d'une marque reconnue dans le monde entier. Et on a laissé la boîte être achetée par un groupe allemand. Le groupe allemand a utilisé le carnet de commandes. Il a récupéré le carnet de commandes. Il a récupéré le savoir-faire des ouvriers. Il a récupéré la marque et il a fermé l'entreprise. Moi, je suis bien d'accord avec vous sur le mode de l'indignation. Maintenant, et alors là, je déborde du cadre de mon livre, je pense qu'il y a une réponse à apporter. Cette réponse, alors, guerre des classes, c'est déjà un mot tabou. Je vais prononcer un autre mot tabou, mais moi je suis en faveur du protectionnisme. Je suis en faveur d'un certain nombre de barrières douanières qui soient établies, peut-être pas au niveau français, mais au niveau européen, et qu'il y ait des industries qui soient protégées et qu'on mette pas le salarié français mieux payé en concurrence, parce que ça n'a qu'un effet de déflation des salaires en concurrence avec des ouvriers qui sont bien moins payés, quoi.
Je remercie d'avoir répondu à la question de Thierry. Je voulais vous revenir sur une autre thématique qui, mine de rien, crée des tensions sociales. Est-ce que la guerre des classes, elle existe aussi dans l'habitat?
Oui, il y a eu tout un mouvement. Alors, moi, il se trouve que j'ai fait des reportages, par exemple, à Marseille.
Je m'excuse de vous interrompre parce que dans votre livre, vous parlez d'un excellent exemple qui est effectivement Marseille où là, on a cet espace du bourgeois bohème qui, pour se détendre, va aller dans un musée contemporain, puis reviendra sur un site propre. Et bien sûr, les loyers ont augmenté, ça a pris des sommes astronomiques et la majorité des gens ne peuvent plus se loger.
Oui, c'est-à-dire la manière dont moi je parle effectivement de c'est-à-dire quand la lutte touche aux revenus, il y a une répartition des revenus qui est différente de ce qu'elle était au début des années 80, pendant la décennie d'ouverture, entre 1980. Alors c'est ça, c'est vrai au sommet de la pyramide sociale et à sa base, mais c'est vrai aussi au milieu. Si on prend ce qui s'est passé entre 1984 et 1994, et je prends cette décennie-là parce que c'est la décennie où on décide de l'ouverture des frontières. Et c'est en vérité l'ouverture des frontières, il y a un théorème économique qui s'appelle le théorème de Schlegel-Holin qui dit quand on ouvre les frontières, il y a davantage d'inégalités à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Eh bien, il se passe que les revenus des ouvriers non qualifiés baissent de 5%, les revenus des employés stagnent, les revenus des cadres augmentent de 12% et le revenu des professions libérales augmente de 35%. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand il y a tous ces revenus qui sont répartis de cette manière différente en termes de logement? Bah, ça veut dire que les ouvriers non qualifiés ont, ayant moins de revenus, ont bien du mal à se loger, et qu'en revanche, les professions libérales ont beaucoup plus de facilité à acheter une maison, une résidence secondaire, par exemple. Et c'est ce qui va se produire. De fait, c'est ce qui va se produire. Et on va voir des quartiers qui se boboïsent ou qui s'embourgeoisent. Alors, la manière dont un quartier s'embourgeoise, c'est décrit par un certain nombre de géographes, hein, sur ce qui s'est passé à la Bastille, à Paris, sur ce qui s'est passé à Lyon dans un quartier populaire, sur ce qui s'est passé à Marseille. Quoique Marseille résiste davantage sur ce terrain-là. Mais c'est que, dans un premier temps, on a un quartier pauvre, on va dire, un quartier ouvrier ou bien un quartier populaire. Et ensuite, il va y avoir, on va implanter un lieu culturel. Alors à la Bastille, ça va être l'Opéra Bastille, qui va attirer une population déjà différente, ou alors un musée d'art contemporain qui va attirer une population différente dans le quartier. Ensuite, il va y avoir...
C'est ce qui se passe au 108 d'Aubert, rue d'Aubervilliers, là, un nouveau truc
qui est juste en face de notre local radio.
Voilà.
Il va y avoir à ce moment-là une population interlope qu'on avait appelée les bobos, c'est-à-dire que des gens qui sont capables de faire la jonction entre le monde populaire, les ouvriers, les immigrés qui vont trouver très sympa, et de notre côté faire la jonction, parce qu'une fois que les bobos se sont largement installés, la porte est ouverte pour que les bourgeois reprennent reconquièrent ce terrain. On est dans une phase de reconquête spatiale. Alors le plus souvent, il y a des fois où c'est une reconquête volontaire du terrain. Les élus vont mettre de l'argent pour volontairement qu'un quartier s'embourgeoise. Mais en général, il n'y a pas besoin de ça. En général, ça se fait tout seul. Les prix de l'immobilier augmentent dans les centres-villes. Du coup, ils deviennent inaccessibles aux classes populaires. Du coup, ce sont les bobos dans un premier temps, puis les bourgeois dans un second temps. Bon, je vois ça à Amiens, qui viennent s'installer. Et puis, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en vérité, maintenant, les vraies zones d'habitat populaire se sont devenues les périphéries rurales. Quand on regarde les statistiques par des géographes, ce sont dans les campagnes que résident les gens qui sont parfois les plus pauvres, ou bien les classes populaires, les ouvriers, les employés.
Petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
Qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes.
Eh oui, c'était Noir Désir. Vous êtes toujours sur 106.3 au Sombre Héros de la Mer, dans l'émission Mode d'Emploi, l'émission d'AC, Agir Ensemble contre le Chômage. Je suis toujours en compagnie de François Ruffin, auteur aux éditions Fayard de La Guerre des Classes. Alors, on va reprendre notre petite discussion après avoir évoqué ce qu'est la guerre des classes et qu'elle existe depuis la nuit des temps, mais qu'elle s'est accélérée, qu'il y a une accélération de l'histoire. Hein, si on peut dire, grâce au capitalisme qui jette toutes ses forces contre la valeur travail, comme diraient certains. Moi, j'ai envie de vous poser une question. C'est, vous êtes rendu chez les riches, et dans votre livre, vous êtes rendu chez les riches et les hyper riches, pour voir comment ils voyaient cette guerre des classes. Alors, Megève, paradis fiscal et autres douceurs, ça a donné quoi, cette expérience de faux rentier, si je puis dire?
D'abord, pour moi, c'est une nécessité. On en parlait tout à l'heure, il y a deux solutions. Soit on croit que le gâteau va toujours s'agrandir, et à ce moment-là, les pauvres attendent la croissance pour, enfin les pauvres ou les salariés, parce qu'il faut pas misérabiliser, mais les ouvriers, employés, les professions intermédiaires attendent que le gâteau grossisse pour en récupérer quelques miettes ou une plus grosse part. Soit on estime que il y a déjà un gâteau qui est là et qu'il faut mieux le répartir. Donc il était nécessaire pour moi de pas me contenter de rester aux côtés des ouvriers, des employés dont les usines ferment, mais de montrer ce que ça voulait dire en termes de gaspillage de l'autre côté. Parce que je considère que c'est du gaspillage, au fond. Je me rends à Genève, à Megève, pardon, je me rends à Megève, par exemple, un gala de polo sur glace. Donc, vous savez, ils jouent sur des chevaux. Et puis, là, on calcule avec un des gars qui joue au polo que ça revient à, je sais pas, 1 500 euros la minute ou quelque chose comme ça. Donc la personne loge dans un chalet, le chalet d'essence, où il y a un hammam à l'intérieur, et c'est 45 000 euros la semaine. Vous voyez, donc ça, quand on dit j'ai de longs passages sur ECCE, une entreprise du nord de la France où les ouvrières fabriquaient des costumes Kenzo 1 000 euros, enfin qui étaient vendus 1 000 euros, sachant que eux, elles, en terre de, à la fois en matière première et en travail, à la sortie d'une usine, il y en avait pour 80 euros. Vous voyez, le costume était vendu 1 000 euros. Et pourtant, Bernard Arnault, qui était le donneur d'ordre de cette entreprise, Bernard Arnault, première fortune de France, avait décrété que 80 euros sur un costume vendu 1000 euros, c'était encore trop, qu'on pouvait le faire en Pologne pour moins cher. Bernard Arnault, dans le même temps, il avait gagné en un an le revenu de ce qu'une femme aurait dû travailler depuis la préhistoire, depuis le paléolithique, pour avoir une année de revenu de Bernard Arnault. Donc là, on voit bien, il s'agit, c'est un livre qui est une arme pour susciter la révolte quand même. Et la révolte, si on voit que des pauvres, il n'y a plus de révolte. Puisque finalement tout le monde, c'est ce que dit, vous savez, c'est ce que dit la personne dans l'esprit que je vous ai lu là à Abbeville. Elle dit, moi je suis au chômage comme tout le monde, je vais à la NPE comme tout le monde. Ce qui est amusant, c'est quand on va dans le quartier des milliardaires qui se sont exilés fiscalement en Belgique, on a quelqu'un qui va dire, bon moi je reviens de 15 jours aux Philippines comme tout le monde. Vous voyez, il y a un comme tout le monde, mais finalement, ce sont deux mondes qui se côtoient de moins en moins. Mais moi, je crois qu'il y a un lien entre les deux. Vous savez, au moment où Sarkozy, dernier point, et puis après, je réponds vos questions. Mais au moment où Sarkozy vient de dire, le pouvoir d'achat, j'y peux rien, je peux pas redistribuer, je suis pas un Père Noël, je peux pas redistribuer des cadeaux, j'ai rien pour vous. Tout ce qu'il faudra, c'est travailler davantage et travailler le dimanche. Bon, c'était il y a un an à peu près. À ce moment-là, je feuillette la presse, qui est très enchantée. Les Figaro, les Échos sont très enchantés parce qu'il y a des tas de réformes, du chômage, des retraites, et puis tout ça en perspective, donc c'est super. Et je tourne quelques pages et je vois qu'il y a navire de grande plaisance, la course au luxe, avec de plus en plus de multimilliardaires, qu'il y a des résidences spéciales pour multimilliardaires, que ces bateaux valent 1 million d'euros du mètre et que ce sont des bateaux qui font 120 mètres de long. Donc ça veut dire qu'un travailleur pourra même pas se payer des chiottes sur un bateau comme ça pendant la totalité.
Vu le centimètre, oui.
Ouais, pendant la totalité de sa carrière. Donc ça veut bien dire, mais comment ça se fait qu'on nous annonce qu'il y a un pouvoir d'achat en Berne, que deux pages plus loin on voit ces super grands bateaux et qui n'ont jamais été si nombreux et qui n'ont jamais été si grands, et qu'on fait pas le lien entre le fait que y ait ces super bateaux, y ait ces chaises, puisqu'on vend des chaises à 10 000 euros, y ait des robinets à 8 000 euros,
N'en jetez plus, monsieur Ruffin.
Nous sommes d'accord pour ce constat qui est assez attristant quelque part, hein, même comme tu dis révoltant. Mais quelles sont justement les armes qu'on peut avoir en dehors du livre, qui est effectivement, quand on arrive à le lire, si jamais c'est pas, c'est assez vulgarisé, je pense, j'imagine.
Je pense que, mais, vous savez, moi, oui, franchement, c'est un livre qui est, enfin, je dis ça comme ça, mais qui est hyper accessible. Très bien. Je l'ai construit pour être accessible.
Tant mieux.
Je confirme.
Mais en dehors du fait que la révolte peut se, par la conscience de la lecture de ce livre, peut se voir jour, en fait, hein, je veux dire ça comme ça. Quelles sont les formes de révolte qui peuvent justement nous permettre de gagner en tout cas une bataille sur cette guerre qui est menée par les grands.
Vous savez, la guerre, c'est pour moi d'abord une guerre des idées. Ils ont gagné une bataille des idées. Et la première bataille qu'ils ont gagnée, c'est de nous faire croire qu'il n'y avait pas de bataille. Donc déjà, si on est convaincu qu'il y a une bataille, si on arrive à convaincre des gens autour de soi qu'il y a une bataille et qu'en vue de cette bataille, on est capable de se réorganiser. Eh ben, c'est tout là. À partir du moment, vous savez, on peut leur faire peur, on leur a fait peur pendant 30 ans. À partir du moment où on est les plus nombreux, ils ne sont rien.
Oui, mais c'est eux qui ont le pouvoir, le fric, et puis les arbres quand même, hein, et puis la police, et puis tout le reste.
Mais ils ne sont rien. Mais ils ne sont rien dès qu'on est... dans les périodes de l'histoire où il y a eu une organisation, on a gagné. Vous voyez, toute la question, c'est de parce qu'aujourd'hui, on est des îlots de résistance à penser qu'il y a une bataille à mener, qu'ils ont gagné une bataille, mais qu'on gagnera la prochaine. Enfin, ce sont des îlots. Maintenant, tant qu'on convainc pas des gens autour de soi que la gauche, ça doit d'abord être la question sociale, ça doit être la question économique, ça doit être la question du partage des richesses, tandis que dans la totalité des discours de Ségolène Royal, il n'y avait pas la question de la répartition des richesses. Bien sûr. Bah, il faut que la gauche se ressaisisse de l'idéologie. Pour moi, c'est la première. De toute façon, je ne dis pas que ça suffise,
oui.
Mais tant que la gauche ne s'est pas reconstruite autour de la question sociale, il n'y a rien à espérer.
Ludovic,
oui. Alors une question. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent mais finalement tout ça, ça nous dépasse très largement puisque c'est légèrement international. Par exemple, la concurrence est internationale, donc nous patrons, nous subissons la concurrence. Et puis d'autre part, ce n'est pas nous qui avons fixé les règles économiques, s'entend, hein, les règles de la mondialisation. Mais ça s'est passé à Washington et à Bruxelles. Pour la masse informe et pour le pauvre petit travailleur que nous sommes tous, on a tous le sentiment que la forme politique de nos démocraties est devenue presque obsolète. Et du coup, effectivement, un trois quarts des gens se détournent d'une lutte politique réelle.
Et ça, je le comprends pleinement. Alors, d'abord sur le constat. Moi, je vous disais, ils ont tremblé. Je prendrai un exemple, c'est Bernard Arnault, que j'ai cité tout à l'heure. Mais Bernard Arnault est un trouillard. Dans les années 70, quand il était dans l'entreprise de son père et qu'il croisait le 1er mai les cortèges, je vous assure qu'il se mettait sous les tapis. Il rasait les murs. Il avait peur de la CGT. Il avait peur des ouvriers. En 81, quand la gauche arrive au pouvoir, il prend l'avion directement pour les États-Unis avec un petit paquet de pognon pour se relancer là-bas en croyant que ça allait être une catastrophe en France et que les patrons seront chassés. Donc, Bernard Arnault est un trouillard. Moi, je me demande du coup comment ça se fait qu'aujourd'hui, Bernard Arnault n'a plus peur. Et Bernard Arnault me l'explique. Pas moi particulièrement, mais il se trouve que je lis son livre et je lis ça. Les entreprises, surtout internationales, ont des moyens de plus en plus vastes et elles ont acquis en Europe la capacité de jouer la concurrence entre les États. L'impact réel des hommes politiques sur la vie économique d'un pays est de plus en plus limité. Et il ajoute « heureusement ». Et ainsi de suite. Il ne cesse de faire des trucs sur « nous évoluons dans un système beaucoup plus mobile qu'il y a une quinzaine d'années ». Face à cela, que peuvent faire les États? Il leur est pratiquement impossible de s'opposer à une mobilité des entreprises à travers l'Europe, et ainsi de suite. Donc le constat est absolument juste que ce qui a renversé la donne, ce qui a fait que le capital est en train de gagner contre le travail, c'est cette internationalisation des échanges, cette ouverture des frontières. Maintenant, il y a deux solutions face à ça. Il y a l'une qui me paraît utopique et l'une qui me paraît plus sensée. Là encore, on déborde du cadre de mon bouquin. La première solution, c'est de penser qu'on va reconstruire une démocratie au niveau mondial. Puisqu'on a un commerce au niveau mondial, puisqu'on a une industrie au niveau mondial, puisque il suffit que les hommes de tous les continents se mettent d'accord entre eux, qu'on recrée une démocratie au niveau mondial, et puis on y arrivera, et puis c'est Walt Disney pour moi, hein. Il y a une deuxième solution, c'est de reconstruire un espace politique où il y a des choses qui sont possibles. Reconstruire un espace politique, reconstruire un espace économique, ça veut dire, je le répète, je l'avais dit tout à l'heure, mais ça veut dire pour moi des barrières aux frontières.
Alors, excusez-moi, poursuivez.
Ça veut dire des barrières aux frontières pour les mouvements de capitaux. On sait que, par exemple, dans le traité constitutionnel européen, il fallait une liberté de circulation des capitaux, non seulement entre les États européens, mais y compris avec les pays tiers. C'est-à-dire qu'on voulait inscrire dans la Constitution le fait qu'il fallait que les capitaux circulent librement entre la France, la Chine, les îles Hawaï, l'Amérique, et ainsi de suite. Bon, donc, c'est des barrières aux frontières contre la libre circulation des capitaux, et pour moi aussi, contre la libre circulation des marchandises. Alors ça, c'est reconstruire cet espace économique, soit au niveau européen, soit, si c'est pas possible, par un multilatéralisme, la France qui se met d'accord avec l'Allemagne, l'Italie et puis tout ça pour créer des frontières, des douanes communes.
Ouais, mais on voit bien aussi que certaines bonneteries voulant s'enrichir licencient et partent aux États-Unis, restent 15 ans et au bout de 15 ans ils se disent on a fait une connerie, on revient en France.
Mais d'abord, c'est à mon avis, une bonneterie va pas trop aux États-Unis. Si vous me dites que c'est aux États-Unis, dans un cas précis, je veux bien vous croire, mais elle aura plutôt intérêt à partir en Asie du Sud-Est, vraisemblablement. Et ensuite, ça arrive. Ah oui, c'était le cas du truc de l'or Manodou, là, je sais plus comment ça s'appelle, pour les bonnets. Mais donc, c'était en Asie du Sud-Est, il me semble, qu'ils sont revenus. Mais par ailleurs, c'est un cas exceptionnel. Il faut pas se leurrer. Si on attend que les échanges se régulent d'eux-mêmes, c'est pas vrai. Ça va nous prendre un siècle et demi. On a le temps de s'appauvrir très largement. De la Chine extérieure, ils vont passer à la Chine intérieure, puis aller aux Philippines, jusqu'à trouver le coût salarial le plus faible, quoi.
Très bien, cette émission se termine. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission sur notre site mode-d-emploi.net. Je recevais donc aujourd'hui François Ruffin, auteur de La Guerre des classes chez Fayard. On fera sûrement une critique du bouquin en ce qui concerne après cette émission que vous reverrez sur le site. Thierry, tu peux nous rappeler la manifestation pour demain, très importante.
Demain, venez tous nombreux à 14h à Stalingrad.
Manifestation
des chômeurs, et même si vous n'êtes pas en association, venez nous rejoindre, venez crier votre haine envers le gouvernement et envers les lois qui font en ce moment, parce que c'est très important. On est en train de perdre le pouvoir d'achat.
Très bien, écoutez, au revoir à tous, et puis la lutte continue. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Il dit que lui obsède lui dans le Nirvana. Piano, tous les musicaux ont aussi leur héros. Lui c'est Oscar ou Fun Speedbox du Kenton. Voici les géants du jazz, les gars, écoutez ça.